Oui, bonsoir. Je te remercie Jean-François pour ton bel exposé, toujours très didactique. Et merci aussi d'avoir rappelé qu'en fait la perturbation énorme qu'on fait subir aux écosystèmes à l'heure actuelle sont sans doute la cause la plus importante, en effet, en tout cas une des plus importantes que le changement climatique. Bon, ceci parce qu'on pose toujours la question, alors, et les moustiques et autres, il va faire plus chaud, on va avoir plus de paludisme ou autre. Bon. Moi, la question, en fait, c'était de savoir, bon, on a vu qu'on peut faire des prospectives en termes de systématique, bon, savoir combien il y aura de virus ou de bactéries décrites dans les 20, 30 prochaines années. Est-ce qu'on sait en termes de morbidité ou de mortalité, est-ce qu'on peut faire une prospective sur ces sujets-là pour faire savoir si enfin ça va faire diminuer la population mondiale, ce qui solutionnerait un gros problème? Voilà, merci.
Commencé à aborder ce sujet. Donc actuellement, je travaille avec des anthropologues, sociologues, économistes au ministère de la Santé, justement, sur des sujets comme ça. Ce que vous disent les sociologues, c'est qu'il y a une relation inverse entre l'image et les effets de la pathologie que l'on vous montre. Hein, prenez le cas d'Ebola, et puis finalement, sa gravité en termes de santé publique. Effectivement, Ebola, des flots d'argent sont déversés sur Ebola et sur le virus Ebola, mais depuis l'apparition de ce phénomène émergent, ce ne sont que, je dis bien en termes de santé publique, même si 70% des individus en mort, ce sont 1 480 cas qui ont contracté la pathologie, dont 62% en sont morts, évidemment. Vous avez tous les ans 500 000 enfants qui meurent de la rougeole dans le monde, et notamment dans la bande intertropicale et dans les pays du Sud, les plus démunis de la planète. Et on sait très bien contrôler ce virus par la vaccination. Vous avez 2 à 3 millions d'habitants sur Terre à mourir du paludisme. Quels moyens accorder à cette recherche? Donc vous avez une sorte de fascination, alors qui peut être une fascination intellectuelle, mais aussi une peur des pathologies passées. Qui interpelle notre mémoire et puis l'effet finalement que cela produit en termes de santé publique. Et je suis persuadé que s'il arrive un nouveau HXNY, parce que je ne vous ai pas raconté, mais des HXNY, il y en a des tonnes et des tonnes, eh bien il se repassera exactement la même histoire et les politiques seront complètement démunis, ils ne sauront pas quoi faire. Ils auront deux camps de scientifiques et de responsables de santé publique en face d'eux, des gens qui leur diront ne vous inquiétez pas et des gens qui vous diront mais inquiétez-vous parce que c'est la prochaine et on ne saura pas répondre. Voilà. Donc ici, pour remettre en balance justement l'importance de l'un et puis la déconsidération qu'il y a sur d'autres. Mais je prêche à un convaincu, je sais.
Oui, bonjour. Je voulais juste deux remarques. Voilà. Deux remarques et une question.
Je ne sais pas qui...
Les remarques, c'est
Monsieur.
que. Pardon? Bah, je ne sais pas. Le monsieur vient de me le passer. Voilà. Bon, c'est gentil. Alors, juste les deux remarques. C'était vous avez parlé de virus. Je voulais juste préciser que l'homme était l'espèce qui a le plus de parasites, en termes généraux, que dans 1 gramme de bactéries, il y avait plus de cellules que dans le corps humain et qu'on en contient un
Donc
kilo.
plus de
Voilà.
parasites, c'est-à-dire de microbes ou de micro-organismes abrités, voilà, c'est ça.
Oui,
Oui,
au sens large. Et ma question, elle était dans un écosystème absolument humain. Si le virus de la variole qui existe encore dans 2 laboratoires était utilisé, combien ça ferait de dégâts?
Alors, donc effectivement, il y a 2 laboratoires au monde qui ont encore des souches du virus de la variole. Il paraîtrait qu'il y en ait un troisième. Donc, si vous voulez, votre question, si des formes bioterroristes utilisaient ces virus pour s'en servir à des fins, justement, c'est ça. Ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que nous sommes un héritage, bien entendu, donc de nos ancêtres qui ont contracté en certain temps pour certains virus de la variole. Enfin, c'est le même processus d'évolution que l'on connaît chez l'homme, chez les animaux, pardon. Et donc, nos ancêtres ont contracté cette pathologie ou d'autres d'ailleurs, et puis certains en sont morts, mais en tout cas, les gens qui n'en sont pas morts ou alors qui ont résisté à la forme du virus de la variole ont aussi propagé finalement leur gène de résistance à ce type de pathologie et donc nous serions mieux armés dans certaines régions en tout cas. On dit que 70% de la population française serait immunisée contre la tuberculose pour ces mêmes raisons. On sait aujourd'hui que les populations du nord de l'Europe sont mieux armées immunologiquement face au virus HIV que les populations du sud de l'Europe. Alors ça s'explique par l'histoire des migrations et par l'introgression de gènes, notamment des Vikings, justement, qui eux ont rencontré le virus de la variole et ça, beaucoup en sont morts. Et certains ont résisté et ont propagé justement leur gène de résistance. Est-ce que je réponds à votre question ? Donc, à la fois, certainement, il y aura un terrain génétique très différent parce que dans l'histoire de notre civilisation, nous avons déjà contracté ce virus, enfin nous, nos ancêtres, et que il y a eu transmission de gènes potentiellement de résistance à, et puis il y a aussi, et à ne pas oublier, tous nos services de santé publique qui sont, c'est ce que je découvre depuis 4 ans, quand même extraordinairement efficace. Enfin, il faut beaucoup compter sur ça. Ça veut dire que s'il arrive, et c'est aujourd'hui le cas, des cas de paludisme, il n'y aura pas des propagations de paludisme ou de diarrhée à choléra, par exemple. On saura très très vite intervenir pour contrôler et donc éradiquer les premiers cas. Il n'y aura pas des propagations immenses à 100 000, 300 000, 500 000 individus. Non, il y a... Nos systèmes modernes de soins, de surveillance, de veille et de recherche sont à ce titre efficaces.
Il y a une question ici.
Alors la question c'est entre le changement climatique et l'évidente surpopulation qui est un sujet presque tabou dans le monde, moins quelques chercheurs courageux, qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Pour la survie de l'espèce et pour la planète. Y a-t-il un lien de danger entre
voilà,
les deux ?
Votre question est très intéressante parce que finalement, elle soulève le choix des priorités. Alors, les priorités nationales en termes de santé publique ou finalement en termes de, d'adaptation. Je travaille actuellement à l'Office parlementaire sur l'adaptation au changement climatique et santé. Donc, effectivement, il faut faire des choix. Nos sociétés ont des choix à faire. Moi, je suis persuadé que l'espèce la plus adaptable, c'est l'homme. Vous avez des populations qui sont capables de vivre, bien entendu, elles sont localement adaptées à moins 40 degrés, et puis vous avez des populations à vivre dans le désert à 40 à 45 degrés, même plus. Et donc, on a une espèce, notre espèce est une espèce extrêmement plastique. Et d'ailleurs, en France, ça va vous étonner, en dehors de la crise sanitaire de 2003, avec le coup de chaleur de 2003 dont vous vous rappelez les effets, en France, on meurt plus de vagues de froid que de vagues de chaleur. Et ça, on n'en parle pas. Il y a beaucoup plus de morts de vagues de froid, et notamment chez les vieillards, tous les ans. Alors, pas à la dimension des chiffres atteint en 2003, mais on meurt plus du froid, très certainement parce qu'on est moins adapté au froid que au chaud. Alors, il faudra faire... Sur quelque chose que je connais mieux, que les changements climatiques et maladies infectieuses, tout a été dit et n'importe quoi. Donc là, je le dis un peu de manière officielle parce que c'est le point de vue donc, national. Vous avez vu dans les plus grands journaux des cartes avec des distributions rouges de paludisme, de dingue, etc., en France et partout, etc. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du paludisme, il viendra pour d'autres raisons, et je crois que je l'avoir exprimé, même si j'étais un peu long, s'il y a l'apparition, ce sera par le transport aérien. Voilà. Donc le changement climatique n'est pas une priorité en soi, en termes de maladies infectieuses. Il est beaucoup plus en termes de ce qu'on appelle maladies chroniques, coup de chaleur, coup de froid, etc. Bien évidemment. Alors après, vous parliez du changement climatique et... Alors la surpopulation, alors évidemment, ça c'est une grande question, mais qui fait appel à ce qu'on n'aime pas, en particulier en France, la théorie malthusienne de contrôle des populations, etc. Mais évidemment, Si nous sommes, aujourd'hui nous sommes 6 500 millions d'habitants, les projections sont 9 milliards. L'agronomie vous dit, donc je suis de formation agronome, donc je peux me permettre de le dire, vous dit que la Terre est capable de nourrir 12 milliards d'individus. Mais s'il y a 12 milliards d'individus dans des concentrations aussi importantes que dans certaines zones, ça va être un régal, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais ça va être un régal pour un certain nombre de micro-organismes. Ça va être un véritable régal. Et si les situations économiques se délabrent, ça va être encore plus un régal. Le drame en Afrique et dans certaines régions, au Cameroun en particulier, quand des pathologies réémergent, c'est pas parce que le virus, la bactérie ou je pense à la maladie du sommeil transmise par des insectes, c'est pas parce que l'agent pathogène lui-même est plus virulent, c'est parce que les systèmes de soins, de veille et de surveillance sont totalement désorganisés. Voilà. Donc, population, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on voit bien le discours des agences internationales. Oui. Non, mais nous, on le... Ah ben, je vous dis la surpopulation. Je vous dis la surpopulation. Mais voilà, mais ça fait partie de... Enfin, d'un terrain et d'une pensée bien pensante, de ne pas le dire, particulièrement en France. Dans d'autres pays, on ose le dire. Et d'ailleurs, à tel point que les organisations internationales, aujourd'hui, commencent à le dire, effectivement. Oui. De toute façon, si nous-mêmes, à un moment, nous ne faisons pas attention et sous certaines formes, nous ne pratiquons pas notre propre régulation de population, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui se chargeront de le faire pour nous. Et
Oui, vous avez montré à travers, entre autres, je pense à la photo où on voit un étang avec des cigognes et autres bestioles, comment il peut y avoir plusieurs espèces qui sont vecteurs des mêmes bactéries ou du même virus. Est-ce que vous avez observé des interactions sur une même espèce de virus ou de bactéries différentes? Est-ce que ça vous intéresse, cette affaire-là?
Oui, alors... C'est renverser la situation. C'est-à-dire, il y a plusieurs espèces de vecteurs et de réservoirs dans une localité, si c'est en Camargue. Donc, s'il me permet de dire que, du coup, on a utilisé finalement ce système. Si vous mettez dans ce type d'écosystème, d'abord très riche, si vous introduisez des animaux qui vont être non réceptifs à l'agent viral, qui vont être des cul-de-sac. Plus vous en mettez dans le système, et plus vous allez freiner la circulation du virus. Vous avez bien compris. C'est exactement ce que l'on a fait, ce qu'on appelle cette méthode, c'est de la zooprophylaxie. Et c'est une des explications pour comprendre l'éradication. Alors c'est un mot que j'aime pas, mais le contrôle régional ou national du paludisme dans le sud de la France. On pense aujourd'hui qu'avec l'augmentation du cheptel en bovin, qui ont constitué énormément de cul-de-sac, globalement, ça a freiné la circulation jusqu'à un seuil qui est un seuil catastrophique où on voit disparaître la pathologie. Alors, c'est effectivement. Alors, j'ai pas d'exemple en tête sur des interactions virus-bactéries à proprement dit. Dans mon équipe, on travaille sur les interactions entre le paludisme et certains géoélements, notamment en Afrique. Alors, quand vous circulez partout en Afrique tropicale, subtropicales, les enfants, vous allez voir, ont des gros ventres. Alors, il y a deux raisons essentielles, des problèmes de malnutrition, et puis le deuxième, c'est qu'ils sont farcis, ils ont les tubes digestifs farcis, de ce qu'on appelle des géoélements. Alors, pour faire un parallèle, ce sont les fameux petits nématodes qu'ont les enfants, les oxures, etc., mais d'autres formes, d'accord, et qui leur gonflent le ventre. Donc, ce que l'on remarque, c'est que, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va les débarrasser avec des anti-helmintiques, d'accord, des drogues, on va les débarrasser des géoélements, donc c'est des vers, hein, des vers ronds, et finalement on s'aperçoit que ces enfants sont plus susceptibles à contracter le paludisme et à engendrer et à faire des formes graves de paludisme et en mourir lorsqu'on les a débarrassés de ces vers. Alors aujourd'hui, on pense que dans la bouche, vous prenez la sphère buccale, vous avez 250 espèces de bactéries. à l'état naturel, et chacune, elles sont à des densités bien particulières, et donc on est dans un véritable écosystème avec des interactions, etc. Quand vous administrez un médicament ou une drogue, vous allez lutter contre certaines, vous allez les éradiquer. Si certaines ne sont pas résistantes, elles ne se développeront pas, mais en tout cas, vous laissez la porte à d'autres présentes pour pouvoir se développer. Donc ça, c'est un champ de recherche extrêmement nouveau, c'est-à-dire des applications finalement de ce qu'on appelle de l'écologie et de l'écologie des communautés appliquées à finalement voilà, les organismes, les micro-organismes présents dans différents organes. Donc finalement, le message aussi, c'est pas qu'il n'y a pas un micro-organisme d'une espèce particulière, mais il y en a une multitude, et ce sont des déséquilibres engendrés ou introduits sur quelques-unes qui permettent la pullulation d'autres et créer souvent des pathologies bien plus graves que les maux que vous vouliez ou tenter de contrôler. Je réponds à votre question ? Ouais, voilà. Ça, c'est un champ tout à fait nouveau et qui explique aujourd'hui un certain nombre de pathologies d'ordre mental, psychiatrique. On tente de comprendre la maladie de Crohn, maladie d'Alzheimer, un peu ainsi. Vous voyez, donc il y a bien un lien entre l'infectieux et puis des troubles de dégénérescence de ce type. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est une voie importante, c'est-à-dire une désorganisation finalement des communautés bactériennes, et pour ces cas-là, communautés bactériennes de l'intestin, notamment des nouveau-nés.
Une question par là.
Après, il y aura madame.
Oui.
D'accord.
Bonjour. Je reviens un petit peu sur l'épisode qu'on a tous vécu en France et dans le monde entier. Il faut que je parle plus près, c'est ça ? C'est bon ? Donc, je reviens sur l'épisode qu'on a tous vécu en France et dans le monde entier il y a quelque temps sur le H1N1. Et on nous a parlé de mutation du virus. Et je voulais savoir ce que c'était qu'un virus qui mute.
Tout d'abord, bon, l'étiologie du phénomène, au Mexique, vous connaissez l'histoire, l'apparition de ce virus chez des individus d'une population avec à proximité de systèmes en stabulation de porc, là, au nord du Mexique. Moi, il se trouve qu'à la même époque, j'ai passé mes vacances au Nouveau-Mexique et j'ai visité le Mexique. Mais bon, il n'y avait absolument pas de panique, rien du tout, alors qu'en France, bon voilà. Ce virus H1N1V, hein, d'accord, comme variant, il a plusieurs origines. Une origine d'ancêtres d'oiseaux. Il se trouve que les porcs sont généralement des superbes réceptacles qui reçoivent des tas de virus parce qu'il y a une forme de compatibilité. Et donc ils reçoivent ces virus avec des virus éventuellement d'origine humaine. Et là, ils peuvent se recombiner. Hein. Vous voyez un virus, par exemple, où certains, en 24 heures chez un individu, vous avez changé 50% de la totalité des masses, des millions de particules que vous aviez. Hein. Vous avez le renouvellement du stock, si vous voulez. Donc ça vous permet de produire de la diversité. Et puis s'il se trouve qu'un variant qui a... muté sur certains traits, eh bien, s'il est plus adapté chez l'individu de porc ou d'individu, eh bien, c'est lui qui gagne. D'accord ? Alors, mutation derrière encore un phénomène anthroposociologique, c'est que mutation, on va lui accorder. Elle dit mutation, on le voit bien. Et là, ça pose tout le débat. Donc, faut-il tout dire à la population ? Vous savez, quand apparu mutation du virus au Danemark, ou je ne sais pas quoi, hein, dans les derniers temps de l'épidémie, ou de la pandémie, eh bien, tout de suite, les gens y associent mutation, c'est forcément caractère pathogène supérieur. Mais non, c'est peut-être une mutation positive, justement, qui va faire que la mutation va conférer une meilleure transmissibilité, mais une moindre virulence. C'est peut-être une mutation tout à fait neutre, etc., etc. Donc, donc là, il y a encore une mutation égale, mais non. Donc, rapidité dans l'évolution, la duplication du stock, et puis le caractère à mutation, enfin le mot mutation fait lui-même peur, mais vous avez tout, enfin tout le monde mute, quoi. Enfin voilà. Fin...
Une dernière question avant les conclusions de l'IRD.
On dit généralement que la drépanocytose protègent du paludisme. Oui. Et c'est par des mécanismes un peu immunologiques de la même façon.
Alors là, vous entrez dans un secteur de la recherche que je ne maîtrise pas. Drépanocytose, c'est une déformation des globules rouges, effectivement, mécaniquement ne permettent pas l'installation et le développement des formes infectantes du plasmodium. Voilà, c'est ça. Donc vous avez des ethnies, des individus d'ethnie particulière qui ont cette mutation. Moi, je l'expliquerai en termes évolutifs, c'est parce que cette mutation s'est installée parce que ça procurait aux individus de ces populations d'ethnie particulière un meilleur avantage dans ces écosystèmes à survivre, à se reproduire, etc. Voilà. Mais des mutations, c'est une mutation, disons, visible, mais des mutations, il y en a eu et il y en aura toujours, enfin, d'une meilleure adaptation à... Voilà. Couleur des yeux, voilà, c'est une mutation. Ou la couleur de la peau, ce sont des mutations.